Kapalabhati, on sait que c'est quoi d'abord? L'appellation, nettoyage du crâne, lumière dans le crâne, mais au niveau simplement technique, on fait quoi dans Kapalabhati? On passe son temps à expirer. Ça veut dire que le moment le plus fort, c'est le temps de l'expiration. Ça veut dire aussi que si je passe tout mon temps à expirer, surtout, je ne dois pas beaucoup inspirer. Ça veut dire que pour ne pas inspirer, ça va imposer une tenue du ventre. Il faut avoir une tenue du ventre précise, suivant comment je vais tenir mon ventre, suivant le mouvement que je vais faire, le relâchement que je vais avoir au niveau du ventre, forcément, je vais trop inspirer. Donc la mise en place, il faut vraiment rétracter le ventre au départ. La zone entre le nombril et le pubis doit rester le plus immobile possible. Au départ, je rétracte un peu le ventre, bon, je ne fais pas au dhyana évidemment, et je dois garder pendant tout le souffle le ventre rétracté, qui va m'empêcher d'inspirer, enfin, m'empêcher entre guillemets. J'ai le ventre rétracté au départ, et l'expiration va se faire entre le nombril et le plexus solaire. Et je vais m'occuper que de ça, c'est-à-dire de donner un coup pour expirer, et je relâche, mais il n'y a quasiment pas d'amplitude. Et par rapport à l'enseignement, au niveau des cours, c'est aussi un des éléments qui est le plus difficile à faire saisir. C'est pour ça que souvent, Kapalabhati est plus difficile à mettre en place dans un cours qu'un truc comme Bhastrika où bon, ça va tout seul. Dans la position, quand je mets la main en dessous du nombril, quand je fais mes souffles, la main qui est en dessous ne doit pas bouger. C'est-à-dire que si je relâche le ventre, je vais forcément, même si je donne un coup plus fort, sur l'expiration, je vais équilibrer l'expiration et l'inspiration. Dans Kapalabhati, je dois avoir aucun va-et-vient du ventre. Le ventre au départ est collé de la zone du nombril au pubis, ça ne bouge pas. Il y a juste en haut, au-dessus du nombril et au plexus solaire où ça bouge. Ça veut dire qu'il n'y a que cette zone-là. Ça doit bouger ni en dessous, ni au-dessus. Cette zone-là, ça va faire travailler le diaphragme, donc effectivement, ça met un tout petit mouvement dans la poitrine, parce que le diaphragme va travailler, mais je dois avoir aucune inspiration thoracique. Je ne respire pas avec la zone thoracique. Donc je tiens. En même temps, il faut être détendu. C'est le jeu des deux. Il y a une zone qui est tendue et aspirée, c'est le pubis nombril. Et tout le reste est relâché et le souffle se fait entre le nombril et le plexus solaire. L'expiration est perceptible, audible, mais l'inspiration est imperceptible et inaudible. Quand on est dans une zone, dans un kapalabhati de nettoyage, l'expiration est excessivement puissante. C'est-à-dire que vraiment, on débouche les conduits. C'est fort, c'est puissant. On va faire, bon, X temps, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on s'en fout. Après, on inspire et on retient. Et là, l'inspiration, après avoir expulsé, 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 produit le nettoyage du crâne. On se nettoie le crâne. Donc le crâne, ça veut dire, c'est Ajna en fait, la roue d'énergie, Ajna. Et c'est un élément important puisque Ajna est réputé pour être le centre de la commande. C'est donc le chef d'orchestre de toutes les roues d'énergie et en même temps des énergies. Donc c'est un souffle qui revient en permanence parce que ce nettoyage permet une purification en même temps d'Ajna et en même temps des autres roues d'énergie. Ça c'est quand on le fait en tant que nettoyage du crâne. Après, quand on le fait de façon beaucoup plus subtile, en tant que pranayama plus évolué, le souffle devient presque inaudible. Et là, on fait des suspensions. Et la recherche, c'est de rentrer dans un état de non-souffle et donc dans un état de suspension et de lumière. Donc on a deux aspects. Un qui est très puissant, qui nettoie, je fais des rétentions à plein. L'autre qui est beaucoup plus fin, très très fin, très subtil, où je respire quasiment plus quand je vais me mettre comme ça. Au niveau de l'air, c'est moyen quand même. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et j'oblige le processus à s'installer, l'alchimie à se faire. Et forcément, comme je suis en hypoventilation très prononcée, déjà au niveau physiologique, il y a une réaction. C'est-à-dire que je vais commencer à avoir de la lumière. C'est une réaction chimique, physiologique. naturel. Mais après, ça doit me guider ailleurs, plus loin. Donc ça, c'est les deux pôles de Kabbalah bâti. Un très, très physique, assez grossier, avec des rétentions à plein, et l'autre beaucoup plus fin et tout, où juste j'arrête, voilà, je suis suspendu, je me dis, tiens, voilà, c'est super, il ne se passe plus rien, je respire plus. Je laisse faire ce qui se fait. Après, il est entre les deux, donc celui qui est très 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 puissant, et celui qui n'existe plus, on va dire, il y a des nuances, possibilité de tout aménager. Ce qui importe de savoir, c'est comment s'articule celui qui est puissant et celui qui est subtil. Et souvent dans les cours, bon, on fait un truc un peu entre les deux. Et après, dans les différentes façons de faire, il existe également les Kabbalah bâti alternés. Que ce soit une façon ou une autre, très grossier, puissant ou très subtil, ou un truc un peu intermédiaire, ce qui est souvent le cas, dans tous les cas, le processus est exactement le même. La zone entre le nombril et le pubis ne bouge pas. Cette zone-là est immobile, elle est rétractée. Je rentre le ventre, en fait. Puissamment ou pas, c'est juste la zone entre le nombril et le plexus solaire qui doit bouger. On va dire que quand on l'enseigne, c'est le plus difficile à faire saisir. Et souvent, Kabbalah bâti, ça prend après le bastrika, parce que la mobilité du ventre n'est pas terrible. D'une part, souvent. D'autre part, les souffles sont souvent inversés. C'est-à-dire que le souffle se fait beaucoup plus haut que le ventre. Donc le bastrika est vraiment le souffle le plus facile, le plus commode et le plus accessible pour installer le souffle abdominal et la maîtrise, la sensation. Ce qu'il faut savoir également, on doit avoir le sentiment que la zone entre le nombril et le pubis est verrouillée par le Moula Bandha. C'est-à-dire que je serre fort le Moula Bandha et c'est ça qui me tient le ventre aspiré. C'est d'ailleurs une des difficultés dans le bastrika, quand je veux sortir le ventre, si je serre bien Moula Bandha, j'arrive pas à sortir le ventre. Donc ça limite, de toutes les façons, quand l'anus est fortement serré, ça limite l'amplitude de sortie du ventre, dans Kabbalah bâti comme dans bastrika. Mais dans Kabbalah bâti, je vais serrer un peu plus, encore un peu plus fort l'anus, comme ça je suis sûr que cette zone-là, elle ne va plus bouger. Mais c'est volontaire, c'est conscient. Si on ne fait pas comme ça, ce n'est pas grave, hein. Il ne va pas se passer la fin du monde ou quoi que ce soit. Mais on sort de la pratique. Cette précision, voilà, ce sont deux chemins qui sont un peu différents. Dans le bastrika, d'une certaine façon, on produit l'échauffement de l'énergie, on produit le nettoyage, au départ en tous les cas, par l'hyperventilation et par la rétention à poumon plein. Kabbalah bâti, on produit les effets de nettoyage ou de lumière dans le crâne par l'hypoventilation, et par les suspensions où, voilà, où je ne respire pas. C'est proche, hein, je reconnais, mais puisqu'on est là pour préciser. Dans le bastrika, parce que j'inspire et j'expire, il y a un véritable échange. Je dois essayer d'avoir une inspiration qui est aussi puissante que l'expiration. Ça veut dire qu'au niveau volumétrique, je vais inspirer beaucoup plus d'air que dans Kabbalah bâti, où je n'en inspire pas. Kabbalah bâti, je vais vider mes poumons et tout, et tout, et tout. Même au niveau du sang, il va y avoir une charge de gaz carbonique, alors que dans bastrika, ça va être une charge d'oxygène. On est dans deux, même au niveau physiologique, on est dans deux processus qui sont complètement différents. Bastrika, c'est le feu, donc c'est la montée de l'énergie, c'est l'excitation. Toujours trop schématique, hein, trop réducteur. Alors que Kabbalah bâti, c'est le non-souffle, et c'est l'immobilité, c'est le calme. C'est la concentration qui fait que je ne suis que dans l'espace d'Ajna, dans ce ciel. Là, je vois les étoiles, j'en fixe une. Ça, c'est pour la poésie, les étoiles. Vénus, si possible, si vous pouvez. Choisissez Vénus, c'est quand même plus sympa. Donc, je vais fixer un point lumineux qui, au fur et à mesure, dans lequel va vibrer, va jaillir le souffle et va agir le son. Et au fur et à mesure, si je suis concentré, ce point lumineux va s'éclairer d'une lumière qui va être de plus en plus forte, qui va aller du blanc au bleu. Mais il faut savoir qu'au départ, c'est quand même un processus chimique. C'est pas la peine de rêver et se dire « ça y est, j'ai vu la lumière, j'ai atteint le nirvana », ça n'a rien à voir. En même temps, c'est important, parce que ça veut dire que ça se passe comme il faut. Parce que avec cette charge en gaz carbonique, il y a tout un processus chimique qui se met en place et qui est, bon, c'est pas des hallucinations. Tout se calme et tout s'apaise parce que j'y vais lentement, progressivement. Et ce point lumineux, en fait, va concentrer, va condenser tout le processus chimique qui se passe. Et à un moment donné, ça va s'allumer de plus en plus. Et c'est une lumière bleue qui est extraordinaire, mais qui n'est pas liée au point que je fixais, qui est liée au processus. D'ailleurs, quand j'y suis bien dans cette lumière bleue, en général, il faut un peu de temps. Je peux ouvrir ou fermer les yeux, ça ne change rien. Même si j'ouvre les yeux, je continue à la voir. ça n'a pas de rapport avec le fait d'avoir les yeux fermés. C'est plus facile de l'attraper quand on a les yeux fermés, parce que c'est une conjonction de la concentration et du processus chimique. Bon, je sais bien, quand on dit ça, ça enlève un peu de poésie, mais voilà, il faut être lucide aussi sur les manifestations. Et en même temps, quand je dis ça, ce n'est pas dévaloriser les choses, hein. C'est juste indiquer un processus. Ça dépend des gens, d'une part, de l'habitude, de l'entraînement et de l'intensité avec laquelle je le fais. L'intensité de concentration. Ça peut se produire en 3 minutes ou parfois au bout de 20 minutes, il ne s'est rien passé. Je ne suis pas arrivé, ce n'était pas le bon jour. Il y a quelque chose qui se produit, ça n'a pas de rapport avec les yeux. Je le sais pour avoir pratiqué avec des aveugles. C'est plus difficile à venir parce que la référence lumineuse est bon, forcément moins patente. Mais un aveugle qui va le faire bien concentré, qui a l'habitude et qui va s'y mettre pendant 25 minutes, j'en connais pas un, bon j'en connais pas 36 non plus, mais j'ai travaillé avec 4 ou 5 aveugles, il n'y en a pas un qui l'a pas vu. C'est pas la vision oculaire en fait, voilà, c'est pas la même chose. Les mots c'est difficile, ça exprime ou ça essaye d'exprimer des expériences. Disons qu'à la bâtie, effectivement, je peux aller vers un état d'immobilité, pourquoi pas d'engourdissement, pourquoi pas de sommeil, un état où je suis un peu shooté en fait. Mais ça disparaît de suite, hein. Il suffit de me mettre à respirer, de suite le processus physiologique prend le dessus et on sait qu'on a une grande facilité à retourner dans le grossier, hein. On n'a pas de mal avec ça. Pour passer au subtil, c'est plus difficile, mais pour retourner au grossier, c'est assez facile. On n'a pas de souci à se faire. Déjà, on ne respire pas beaucoup avec les deux narines. Lorsqu'il y en a qu'une, ça devient beaucoup plus chaud. Quand on s'étouffe en le faisant alterner, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'air. Franchement, Kapalabhati, c'est souvent remis en question. On l'a bien réglé, on sait bien le faire. Et puis après, bon, l'habitude et tout. Parce que ce n'est pas facile de garder cette rétraction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment serrer l'anus et avoir le sentiment que là, c'est aspiré. Si je ne suis pas habitué à faire des uddiyanas, à faire des trucs comme ça. Le fait de tirer le ventre en arrière, c'est un effort permanent. Alors, quand je suis habitué, mon ventre, il est quasiment tout le temps comme ça, naturellement. Dès que je serre l'anus, ça recule la partie basse du ventre. Ben, si ce n'est pas le cas, il faut être attentif. On dit que Kapalabhati, c'est combien de souffles à la minute? Ouais, une centaine. Voilà, c'est assez rapide. C'est un des éléments qui font Kapalabhati. Alors que Bhastrika, c'est plus lent. Parce que je prends le temps d'expirer, d'inspirer, d'expirer. C'est un élément, mais on va dire que le nombre de souffles n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, celui qui reste vraiment lequel on doit se concentrer, c'est la non-inspiration. Alors, évidemment, ce n'est pas vrai. Si je n'inspirais pas du tout, je ne tiendrais pas le coup. Mais c'est-à-dire que je ne dois pas entendre du tout l'inspiration. Et ça, éventuellement, ça doit modifier le rythme. Par exemple, si vous faites dans un cours, même si les gens ne sont pas débutants, si vous commencez sur un rythme comme ça, il faut avoir un peu de maîtrise pour que ça se fasse correctement. C'est-à-dire, au plus je vais aller vite, au plus j'ai de chance d'équilibrer, parce que je vais m'étouffer sinon. Je vais équilibrer, sans le vouloir, et souvent sans même m'en rendre compte, ça va équilibrer. Ce qui veut dire que je dois trouver mon rythme à moi, au plus c'est lent, entre guillemets, au plus c'est facile. Au plus c'est rapide, au plus c'est difficile. Là, je suis sur le rythme. Je suis sur un rythme minimum. En plus, ça a un avantage, c'est que ça permet de saisir un instant après le souffle, un instant vide après le souffle. On a des pratiques et des méditations qui nous amènent à la saisie de cet instant vide après le souffle. Quand vous le faites, un élément qui guide, c'est est-ce que j'entends ou pas mon inspiration ? Pour un cours, il faut qu'on entende surtout une expiration forte, parce que dans les cours, on ne va pas faire les Kapalabhati subtils, ce n'est pas possible. Mais pour vous, il faut entendre surtout une expiration forte et quasiment pas d'inspiration. Bon, après, s'il y a un peu plus d'inspiration, on laisse passer. Mais après, quand c'est une pratique personnelle, que ce soit puissant ou pas, ou subtil, vous ne devez jamais entendre votre inspiration. Parce que si vous l'entendez, ça veut dire qu'il y a trop d'air qui rentre dans le temps qui lui est imparti. Et donc ça frotte forcément dans les fosses nasales. Kapalabhati est un des rares souffles grossiers, entre guillemets pour le terme, dans lequel on n'applique pas l'ujjayi. le frottement du souffle ne doit jamais être dans cette zone-là, mais toujours en haut, le plus haut possible, fosse nasale, sinus et tout, pour que ça fasse une résonance, qu'il se passe quelque chose au niveau d'ajna. Le frottement, ça ne se fait jamais dans la zone de la gorge et toujours, toujours en haut. Et voilà, c'est cette attention qui fait que quand je vais le faire, quelle que soit après l'intensité, la gorge est toujours un petit peu serrée quand même, mais c'est vraiment en haut que ça se passe et le son, le frottement ne se fait qu'à l'expiration. Alors quand je vais le faire alterner, si je ne veux vraiment pas entendre l'inspiration, c'est là où ça se complique. Alors si je fais attention à ne pas entendre l'inspiration, en général, qu'est-ce qui se passe? Au bout d'une minute, voilà, je m'étouffe, j'en peux plus. Et il y a un passage, alors, soit j'accepte de continuer à m'étouffer et voilà, ça va être un peu hallucinant, quoi, hallucinogène. Et puis il y a des chances qu'après j'y arrive plus quand même aussi. Donc soit après, bon, je vais osciller entre ce kapala bhati alterné, plutôt non sonore, puis je vais reprendre un peu plus fort, tant pis, pour me redonner un peu d'oxygène, et puis je vais aller et venir dans ces phases-là. C'est vrai qu'un kapala bhati qui est ni dessus ni vous, ni kapala bhati, ni bhastrika et tout, c'est facile. Et si on veut vraiment le préciser et rentrer dans sa proposition, qui est une proposition quand même originale, c'est un peu précurseur de ce qu'on va faire dans le pranayama, c'est-à-dire qu'on va vers une hypoventilation très marquée. Je vais dans des zones où, a priori, je ne peux pas continuer s'il ne se passe pas une alchimie. Je respire tellement peu, il y a un moment, de fois en fois, où quelque chose doit lâcher du jeu physiologique pour que le jeu énergétique prenne le dessus. Et ça, ben, voilà, c'est des jours bien, des jours pas bien et tout. C'est pour ça que si on fait un kapala bhati, par exemple subtil, au début je vais faire le kapala bhati subtil, et puis je vais au bout d'une minute, deux minutes, trois minutes, je vais faire une pause. Dans la pause, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me remettre à respirer. Comme j'étais un peu juste, limite, je vais avoir un souffle très doux, tranquille, mais ça va repartir. Et le jeu, c'est de faire en sorte que la série du souffle dure de plus en plus longtemps. Parce qu'au bout de deux minutes, si je suis vraiment dans le kapala bhati subtil, là, ça va être difficile à gérer. Alors que si je continue 3 minutes, ça va être délicat. 4 minutes, alors que si j'ai fait une pause avant, ça m'a laissé le temps, même parfois sans que je m'en rende compte, que le souffle plus fin, plus subtil sûrement, mais se remette en route. Si le hasard fait que, enfin il n'a rien à voir là-dedans, mais peu importe, au bout on va faire une série de 5 minutes. S'il se trouve que vous étouffez, vous n'en pouvez plus, ben vous repartez plus fort. Quitte à inspirer un peu, voilà. Il ne faut pas arrêter. C'est la seule consigne, je ne dois pas arrêter. En même temps, je dois jouer avec ça. Je joue, je danse autour de cette phase où je suis limite, limite. Et si jamais je sens que ça ne passe pas, ça reste trop physiologique, je reprends du physiologique, non plus, je m'en fous, je vais dans le sang. Et puis à chaque fois, je vais attendre que quelque chose se fasse, je vais danser autour de la zone d'étouffement, et puis à un moment donné, ça va lâcher. Et d'un seul coup, je vais me retrouver dans un souffle hyper facile, alors que je respire encore moins que tout à l'heure.